Il est 8h.
Évidemment extrêmement content et enthousiaste d'y retourner, mais c'est pas la même disposition. La première fois j'étais un débutant et là je suis un vétéran.
Thomas Pesquet et le poids des responsabilités au moment de quitter la Terre dans moins de 4 heures. Depuis sa dernière mission, l'astronaute français a changé de fusée comme de base de lancement. Avec SpaceX, c'est aussi la consécration du secteur privé dans le spatial. Nous sommes au centre de contrôle de cette mission dans quelques secondes. Dans ce journal, un club de foot abandonné par son actionnaire. La question de la survie des Girondins de Bordeaux est posée. Et puis le périple d'une Française de 93 ans sur les traces de son frère, déporté en 1943. Rencontre avec Colette, héroïne d'un documentaire nommé aux Oscars. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On va parler d'espace ce matin. Aura-t-on plus d'espace et de liberté à la mi-mai? Et puis mon invité rêve d'être le Thomas Pesquet de son parti. C'est pas gagné. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, attend le décollage. Il attend. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour, c'est l'homme qui nous fait relire Tintin. Une capacité d'émerveillement et de nous arracher collectivement à l'attraction terrestre. Thomas Pesquet est à 3h47 maintenant de décoller avec ses trois camarades astronautes. Très loin de nos restrictions kilométriques, la fusée qui les emmène fera 15 tours de la Terre pour rejoindre la Station Spatiale Internationale.
Bonjour Benoît Clerc.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes clairement le mieux placé ce matin pour nous informer sur ce départ, puisque vous êtes précisément au centre de contrôle de SpaceX. Qu'est-ce qu'il s'y passe à l'instant où je vous parle ?
Oui, ambiance studieuse, feutrée même pour la petite trentaine de contrôleurs qui sont installés ici dans la salle de commandement du vol. Tout éclairé puisqu'il est un peu plus de 23 heures en Californie. À côté de chacun d'eux, des mugs de café, car la nuit va être longue, François. Sur les écrans géants qui leur font face, des images de Cap Kennedy et du pad 39A. Le pas de tir éclairé lui aussi par de puissants projecteurs. Puisqu'il est seulement 2 heures du matin en Floride, les astronautes vont arriver dans une heure environ. Ils prendront un ascenseur pour monter sur la tour de lancement et s'installeront alors dans la capsule Dragon qui est fixée, elle, au sommet de la fusée Falcon 9, haute de 47 mètres et propulsée par 9 moteurs Merlin. C'est le nom choisi par Elon Musk car leur bruit, dit-il en plaisantant, l'enchante, François.
Alors, pour Thomas Pesquet, c'est un retour dans l'espace et on va faire un peu d'histoire avec vous, Benoît Clerc, puisque je crois que ce n'est pas non plus votre première sur un événement de ce type.
Oui, effectivement, j'ai eu la chance de travailler pour Paris Match et d'être leur envoyé spécial à Cap Kennedy pour suivre le départ du premier spationaute français qui s'appelait Patrick Baudry et qui avait séjourné pendant une semaine à bord de la navette Discovery. C'était en juin 1985.
Alors, il y a un autre élément de comparaison, Benoît, et c'est que là, autour de vous, on n'est pas dans une administration publique comme la NASA cette fois. On est donc chez Elon Musk, c'est SpaceX, entreprise privée qui gère un vol habité pour l'espace.
Oui, en 20 ans, Elon Musk a vraiment révolutionné une vieille entreprise nationale, la NASA, endormie à la suite des deux accidents navette et de la fin des programmes navette d'ailleurs, avec des méthodes de management modernes. SpaceX fabrique aujourd'hui quasiment une fusée par jour, là où il y a deux décennies, on en faisait à peine une tous les deux mois. À l'époque, il y avait plus de 10 000 ingénieurs et contrôleurs par mission et des milliers d'écrans pour un seul vol. Aujourd'hui, 25 contrôleurs seulement et 3 écrans dans la capsule suffisent à conduire une mission de ce type vers la Station Spatiale Internationale. Plus de 120 lancements ont été réussis par la firme californienne, les coûts divisés par 20. D'ailleurs, à sa fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars, Elon Musk vient d'ajouter 1,6 milliard. C'est le chèque que vient de lui signer la NASA pour établir prochainement une base sur Mars.
Benoît Clerc, merci, envoyé spécial en ligne de Hawthorne en Californie pour Europe 1. Et pour vous mettre dans la peau des astronautes, si vous avez 10 minutes à perdre, allez donc tester sur le site internet de SpaceX ce simulateur d'amarrage à la station spatiale. Ça paraît tout simple hein, comme ça, mais quand vous filez à 28 000 km/h, la précision nécessaire est tout autre qu'au volant de votre voiture.
Oui, ce compte à rebours et cette fébrilité hein, qui monte, nous les vivons ce matin avec nos spécialistes, bien sûr, Laure d'Autriche, Benoît Clerc que vous venez d'entendre. Événement suivi évidemment sur Europe1.fr. Notez qu'à 12h30, c'est l'astronaute Jean-Jacques Favier qui sera l'invité d'Europe Midi pour commenter le décollage, puisqu'il aura lieu.
Exactement, et pour l'instant, il est 8h05 en France, à Paris. Le compte à rebours du déconfinement est moins évident à saisir, surtout pour les commerçants et les restaurateurs. On entendait leur appel à la clarté hier sur Europe 1. Ils n'ont pas été entendus par le Premier ministre. Jean Castex particulièrement prudent. Michael Darmon évoquait il y a quelques minutes le maintien des jours peureux plutôt que les jours heureux.
L'une des rares annonces concerne les collégiens de 4e et de 3e dans 15 départements les plus touchés par l'épidémie. Pour eux, le retour en classe le 3 mai se fera en demi-jauge.
Oui, ce qui inquiète très concrètement Myriam Ménez, la présidente de la PEP, une fédération de parents d'élèves dans le Val-de-Marne.
Pour ces élèves, on ne sait absolument pas par quoi ça va se traduire. Ça peut très bien être un jour sur deux, un matin, un après-midi. Si c'est comme ce que nous vivons actuellement sur les lycées, pour les familles, sachant que là, on est sur des enfants plus jeunes, bien souvent, ça veut dire qu'il faut rester avec eux, qu'on ne peut pas les laisser à la maison seuls. Ça veut dire que les familles, il va falloir qu'elles s'organisent, qu'elles prennent un jour sur deux, qu'elles soient en télétravail, si c'est possible ou pas. Enfin, ça va réellement être ingérable. Et en plus, dans ce principe du semi-présentiel, comme les enseignants en parallèle sont avec l'autre groupe, ils n'assurent absolument pas de cours à distance. Donc c'est vraiment uniquement le cours en présentiel qui compte, c'est donc plus que 50% de cours pour les enfants. Et donc ça va se traduire comme en lycée, avec seulement 50% du temps à l'école et 50% à la maison, à rien faire, devant la télé. Pour ces gamins-là, c'est une véritable catastrophe.
Myriam Ménez, jointe par Johanna Chabas.
On a eu hier une confirmation, la fin de la limite des 10 km pour se déplacer.
Ce sera valable à partir du 3 mai. Donc encore un peu de patience pour les habitants des communes malchanceuses, un peu isolées, comme Brumath dans le Bas-Rhin, où s'est rendu Arthur Mbaché.
Ils se sentent coupés du monde, privés de Strasbourg à 15 km, privés de Agneau 12 km, privés des balades dans le massif des Vosges. Encore un peu plus loin, les habitants de Brumath se réjouissent de l'annonce de la fin de la limite des 10 km.
Je pense que ça va nous faire du bien.
On aura un peu plus de liberté et puis on pourra de nouveau. Moi j'aime bien randonner et puis les randos à 10 km, il n'y a pas grand chose. Donc les alentours ici, on les connaît par cœur.
Vous en avez marre ?
Un petit peu, oui, parce qu'on fait toujours la même ronde.
Cela étant, vous dire que la levée de cette règle va complètement changer la vie des Brumathois serait sans doute exagéré.
Ça change pas grand-chose. Hein. Moi, par exemple, j'ai des cousins et tout, ils sont dans les 10 km. Moi, c'est bon, je peux faire tout ce que je veux dans les 10 km.
Vous n'avez pas triché pendant les...
Ah. Si, un petit peu, quoi. Parce que ma fille, elle habite à Souffel, ça fait 12 km, bon...
En attendant le 3 mai, l'attestation dérogatoire reste obligatoire au-delà de 10 km de chez vous. Brumath, Arthur Mbaché, Europe 1.
Quant au couvre-feu, il est maintenu jusqu'à nouvel ordre. On continue donc d'éviter l'effet apéro, comme l'avait appelé le gouvernement. Émission spéciale de La France Bouge tout à l'heure sur Europe 1 entre 13h et 14h. On verra, avec modération, comment les marques de boissons alcoolisées vivent cette période. Et comme chaque vendredi, un patron viendra annoncer des recrutements, 200 postes à pourvoir aujourd'hui à 13h50.
Les restrictions perdurent chez nous. D'autres pays semblent nous narguer, à l'image des Maldives, archipel qui cherche à faire revenir les touristes, écoutez bien, avec une offre pour le moins originale.
Oui, le séjour et 2 doses de vaccin, Marine Protet.
Oui, c'est le programme 3V, visite, vaccination, vacances. Une formule qui prévoit d'offrir 2 doses de vaccin à tous les touristes qui réserveront un séjour aux Maldives. Ultime moyen pour le ministre du Tourisme, Abdullah Mossoum, de compenser les pertes de l'an dernier.
La vaccination est l'une des clés pour voyager aujourd'hui. Dès que vous monterez dans un avion, on vous demandera si vous avez été vacciné. On ne le voit pas comme un business. En plus, ça ne coûtera quasiment rien aux touristes. C'est surtout un moyen pour nous de les remercier d'avoir choisi les Maldives.
Le gouvernement espère ainsi attirer 1,5 million de visiteurs d'ici la fin de l'année. Mais pour Gérard Carnot, directeur de Maldives à la carte, une agence de voyage spécialisée dans les séjours sur l'archipel, c'est mission impossible.
Ouais, je trouve que c'est un coup de com', oui. À part le vaccin Janssen, qui ne demande qu'une seule dose, tous les vaccins demandent 2 doses. Ça veut dire qu'il va falloir que les clients réservent des voyages de 6 à 8 semaines pour pouvoir avoir les 2 doses de vaccin. C'est un budget pas loin de 8-9 000 euros, quoi. Donc c'est clairement pas pour tout le monde.
Et pas pour tout de suite non plus. Pour lancer son programme, le gouvernement attend que l'ensemble des habitants des Maldives soient vaccinés. Pour l'instant, ils ne sont que 60% à avoir reçu une première dose.
Merci Marine Protet. Emmanuel Macron est arrivé hier soir au Tchad pour les obsèques d'Idriss Déby. La voiture du président français a été escortée par des blindés de la force Barkhane depuis la base militaire où il a atterri jusqu'à l'ambassade de France à N'Djamena.
Quelle nous paraît loin ce matin l'année 2009 qui avait vu le sacre des Girondins de Bordeaux champion de France de football.
Oui, le club est depuis hier soir dans une grande incertitude. depuis que son propriétaire américain King Street a annoncé qu'il se retirait. On n'imaginait même pas que c'était possible. Le club a été placé sous la protection du tribunal de commerce.
Bonjour Léna Hickmonnier.
Bonjour.
Ça veut dire quoi pour l'avenir immédiat du club ?
Qu'il n'y aura pas de dépôt de bilan. À ce stade, la DNCG, qui contrôle les finances du foot français, estime qu'il n'y a pas vraiment d'urgence et que Bordeaux terminera bien la saison, mais c'est déjà dans un mois. Pas de cessation de paiement immédiat, ça veut dire aussi que les salaires continueront à être versés aux 300 employés. Deuxième option, la plus plausible, trouver un repreneur, mettre le club en vente. Donc, le tout est de savoir à quel prix. Fin 2018, le groupe M6 avait réussi à vendre les Girondins 100 millions d'euros à King Street, qui a ensuite réinjecté 68 millions. Mais cette fois, il faudra revoir les ambitions à la baisse, car la crise sanitaire, le fiasco Mediapro ont plombé les comptes des clubs français et Bordeaux, au terme de l'exercice, accusera un déficit d'à peu près 50 millions. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué la fuite de l'investisseur américain. Donc si Bordeaux est racheté, ce sera sans doute pour une bouchée de pain. Et encore, là, on parle de l'éventualité où les Girondins se maintiendraient en Ligue 1, puisque sportivement, Bordeaux est 16e du championnat aux portes de la Ligue 2, ce qui ferait encore chuter le prix de vente du club.
Merci Léna Hickmonnier.
Et une rencontre ce matin. Pour terminer ce journal, nous allons faire connaissance avec Colette, 93 ans.
Oui, ancienne résistante, son frère Jean-Pierre avait été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, où il est mort en 1945. Mais 73 ans plus tard, et pour la toute première fois, Colette a décidé de faire une sorte de pèlerinage raconté dans un documentaire. Il s'intitule Colette, tout simplement. Film nommé aux Oscars. La cérémonie a lieu dimanche soir à Los Angeles. Mais c'est en Normandie, à Caen, que Romain Hoquet est allé pour rencontrer Colette.
Jean-Pierre a été arrêté en 1943 par la Gestapo pour finir au redoutable camp de Dora. Et c'est là qu'il est mort. Il a tenu le coup 2 ans.
Vous avez une photo de votre frère dans les mains.
Voilà, ben regardez ce beau gars qui avait... Là, il avait 14 ans. Il était vraiment brillant, très volontaire. Quand il avait décidé de traverser un mur, tant pis pour le mur. J'ai mis 30 ans ou 40 ans à oublier. Tout ce qui a réveillé les souvenirs en moi, c'est le documentaire de Doc Colette.
Ce documentaire, donc, ça raconte votre pèlerinage quand vous êtes allé pour la première fois en Allemagne dans le camp de concentration où votre frère est mort.
Absolument. Je savais très bien que je ne serais pas moi-même dès que j'aurais passé la frontière allemande. Et c'est vrai.
Qu'est-ce qui a changé en vous ?
Ça rouvre de nouvelles plaies. Quand on raconte une déportation, les paroles, ça s'envole. Mais quand vous avez touché du doigt la porte du crématorium, vous ne l'oubliez pas. J'ai posé des fleurs juste à l'endroit où il est mort. Vous ne l'oubliez pas. Mais je trouve que c'est pas payé cher, simplement pour honorer le souvenir de Jean-Pierre.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre histoire est nommée aux Oscars ?
Je suis vraiment étonnée de l'importance qu'a pris le film. J'ai pas l'habitude de vanter plus haut que mon moulin. Moi, je suis à Caen, dans mon HLM, depuis 31 ans. Oscar ou pas, ça changera rien à mon existence. Et je suis surtout vraiment heureuse qu'on ait réveillé la mémoire de Jean-Pierre.
Un témoignage fort de Colette Marin-Catherine avec Romain Hoquet pour Europe 1. Ce documentaire sera-t-il oscarisé ? Vous le saurez en écoutant la matinale d'Europe 1 dès 5h lundi, puisque cette cérémonie des Oscars sera à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi.
C'est fort ce témoignage qu'a recueilli Romain Hoquet ce matin. Vous le retrouverez bien sûr sur Europe 1.fr. Et les Oscars, il ne reste plus qu'à croiser les doigts maintenant. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13.